Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de ce point, actualité, Donald Trump a annoncé se donner 10 jours pour décider si un accord avec l'Iran est possible, sans quoi de mauvaises choses arriveront, ce sont ses mots. Sur la situation à Gaza, Benjamin Netanyahou a insisté sur la nécessité d'un désarmement du Hamas avant toute reconstruction de l'enclave. Alerte crue en France, la Loire-Atlantique a été placée en vigilance rouge par Météo France aux côtés de 4 autres départements de l'Ouest. Nous l'avons évoqué dans les titres, Donald Trump a annoncé se donner 10 jours pour décider si un accord avec l'Iran est possible, sans quoi de mauvaises choses arriveront, ce sont ses mots, alors que les États-Unis ont mis en place au Moyen-Orient une imposante force de frappe navale et aérienne. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a également menacé l'Iran d'une riposte massive s'il attaquait Israël. La France avait plutôt demandé à Washington et Téhéran de privilégier la négociation, estimant que la voie diplomatique était la seule capable d'empêcher l'Iran d'accéder à une arme nucléaire. Et sur la situation à Gaza, Benjamin Netanyahou a insisté sur la nécessité d'un désarmement de Hamas avant toute reconstruction de l'enclave au moment où le Conseil de paix pour la reconstruction tient une réunion à Washington, un conseil où Donald Trump a annoncé que les États-Unis contribueraient à hauteur de 10 milliards de dollars. Et le haut représentant pour Gaza a annoncé le début du recrutement d'une nouvelle force de police palestinienne dans l'enclave. Dans un autre volet, Médecins sans frontières a annoncé continuer à travailler dans la bande de Gaza aussi longtemps que possible. Ceci à quelques jours de la fin prévue des activités de l'ONG dans le territoire décidé par Israël. Et c'est l'un de nos dossiers du jour à suivre. Et enfin, en France, alerte crue, la Loire-Atlantique a été placée en vigilance rouge par Météo France aux côtés de 4 départements de l'Ouest, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire pour les journées de jeudi et de vendredi. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place maintenant au dossier du jour. Premier dossier, le chef de la mission pour la Palestine à Médecins sans frontières a annoncé aujourd'hui que l'organisation restera à Gaza le plus longtemps possible. Cette déclaration intervient alors qu'Israël a demandé à l'ONG de quitter le territoire avant le 28 février. L'ONG joue pourtant un rôle précieux dans l'enclave. Les précisions avec vous, Marc-Aurel Barèze.
Oui, Nawel, la crise se poursuit entre Israël et Médecins sans frontières. Philippe Ribeiro, le chef de mission pour la Palestine à MSF, s'est voulu alarmant aujourd'hui. Si nous sommes obligés de partir, cela créera un vide immense, a-t-il affirmé. Il pose une question. Le système de santé s'est effondré et sans des ONG comme MSF et d'autres, qui va prendre le relais? MSF qui joue effectivement un rôle de premier plan dans l'enclave. Elle a assuré en 2025 plus de 800 000 consultations médicales à Gaza, soigné plus de 100 000 traumatismes et assisté plus de 10 000 accouchements. Pour rappel, l'origine des tensions entre Israël et MSF, c'est le refus de l'ONG internationale de fournir la liste détaillée de ses employés palestiniens. Le 1er février dernier, l'État hébreu avait invoqué lui des questions de sécurité pour justifier l'interdiction de 37 ONG dans la bande de Gaza, dont MSF. Cette dernière avait dénoncé cette décision, arguant que c'est un prétexte visant à empêcher l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Si le chef de mission pour la Palestine à MSF a assuré que l'organisation continuait à travailler dans l'enclave, il a aussi regretter que depuis début janvier, je cite, nous ne sommes plus en capacité de faire entrer du personnel international à Gaza. Toujours selon lui, MSF n'est plus non plus autorisé à faire entrer des équipements médicaux, ni des médicaments ou des matériaux à Gaza. Sur les activités de l'ONG à Gaza, le responsable de MSF a espéré que le dialogue puisse être rétabli avec le gouvernement israélien. Il a dit espérer que l'ONG pourra retourner à Gaza.
Merci Marc-Aurel Barès pour toutes ces précisions. Second dossier, elle a porté la voix des Palestiniens en Europe. La mort de Leïla Chahine suscite une vive émotion. L'ex-représentante de la Palestine en France et auprès de l'Union européenne avait été une proche de Yasser Arafat. Elle aurait été la première femme à représenter l'organisation de libération de la Palestine à l'étranger. Elle a ensuite été déléguée générale de l'autorité palestinienne en France de 1994 à 2005, avant d'occuper les mêmes fonctions à Bruxelles et auprès de l'Union européenne. Karim Amlal, diplomate et ex-ambassadeur de France pour la Méditerranée, l'a bien connu et je vous propose de l'écouter.
J'étais immédiatement impressionné par son charisme, par sa présence, par son aura aussi, qui était bien sûr l'aura de la Palestine, mais qui était aussi d'abord l'aura de cette grande dame férue de littérature, de poésie, qui avait en plus une place particulière en France à l'époque, puisque nous étions, alors c'était en 1997-98, des jeunes étudiants, et nous étions encore dans ce qu'on appelait à l'époque les accords d'Oslo, ou le processus d'Oslo. Le traité de Washington avait été signé quelques années auparavant, et donc l'aura de cette dame était tout à fait majestueux, parce que nous étions alors dans un temps d'espérance qui était non pas tout à fait un temps de paix, mais en tout cas un cheminement vers la paix. Donc c'est vraiment ce souvenir-là que je garde, et en plus c'est elle qui m'a permis à l'époque, alors que j'étais encore très très jeune,
de rencontrer
Yasser Arafat. Absolument, j'ai rencontré Yasser Arafat grâce à elle, à l'UNESCO d'ailleurs, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un moment extrêmement émouvant pour moi, et c'est grâce à elle. Donc c'est vrai qu'elle représentait, elle avait des liens très forts avec beaucoup de personnalités de la classe politique française, le président Chirac et beaucoup d'autres, à gauche comme à droite d'ailleurs. Elle était extrêmement consensuelle, et j'ai vu rapidement les hommages qui lui sont rendus aujourd'hui, qui viennent de partout, hein, qui viennent de la gauche, de la droite, Martine Aubry et beaucoup d'autres personnalités, Hubert Védrine, voilà, Dominique de Villepin bien sûr, bref, tous ceux qui ont eu un rôle. Et puis je voudrais dire aussi quelque chose, parce que ça c'est le passé, mais il n'y a pas si longtemps, et encore ces dernières années, dans le contexte ô combien tragique de la guerre à Gaza, sa parole était toujours écoutée et respectée. Et je sais qu'elle était conviée très souvent, elle ne pouvait pas toujours se rendre à chaque invitation, mais elle continuait, infatigable travailleuse de la paix, à répandre ses réflexions et à continuer à vouloir croire, même si c'était quand même très difficile ces dernières années, et pour cause, à vouloir croire à un chemin de paix. Donc c'est vraiment une ardente combattante de la cause palestinienne, évidemment, mais aussi une infatigable travailleuse de la paix, ce qu'elle est restée jusqu'à son dernier souffle, je crois.
Et vous venez d'écouter Karim Amlal, diplomate et ex-ambassadeur de France pour la Méditerranée, au micro de François-Xavier de Calonne. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.